Bonjour, c'est Rachida de Sentez-vous bien. Aujourd'hui, je suis accueillie au sein des locaux de Vab Nutrition, que tu as créé, Véronique.
Tout à fait.
Véronique, tu es spécialiste en nutrition.
Alors, je suis scientifique en nutrition, j'étais directrice de recherche à l'INRA pendant longtemps. J'ai dirigé la recherche en nutrition du groupe Danone et depuis 10 ans maintenant, j'ai fondé ce cabinet de conseil en nutrition pour les entreprises qui s'appelle VAB Nutrition et donc avec Aurélie.
Avec Aurélie.
Qui travaille avec moi depuis presque 10 ans en fait. Nous travaillons sur différentes thématiques liées à la nutrition, la réglementation, mais aussi beaucoup de choses très, très scientifiques.
D'accord, donc tu es vraiment à la pointe de la nutrition. En tout cas, vous êtes à jour toutes les deux sur ce qui se passe dans le domaine de la nutrition pour conseiller de manière. On va dire la plus innovante des personnes que vous accompagnez.
Voilà, on essaie d'être dans l'innovation, mais aussi dans la vérité scientifique
et
dans la rigueur.
Et donc toi Aurélie, donc tu accompagnes Véronique donc sur VAB. Pardon, j'ai dit VAB tout à l'heure, c'est VAB Nutrition depuis 10 ans aussi.
C'est ça.
Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours.
Oui, alors moi j'ai un parcours au départ, j'ai fait une thèse en nutrition humaine. Puis j'ai fait une expérience de recherche aux États-Unis pendant 3 ans.
Un postdoc.
Voilà, un postdoc. donc dans la recherche académique. Et puis à l'issue de cette expérience, j'ai intégré VAB Nutrition pour essayer de conseiller les industriels pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits.
Alors aujourd'hui, on ne va pas conseiller les industriels, on va conseiller monsieur, madame, tout le monde, les personnes qui nous suivent sur le blog, sur la chaîne YouTube. Et on va vraiment vous apporter des conseils concrets sur comment lire de manière la plus efficace une étiquette. Parce que je crois que les étiquettes aujourd'hui deviennent très compliquées, il y a plein d'informations. Donc comment on pourrait aider tout simplement les personnes qui nous regardent à lire simplement quelles sont les informations qu'il faut absolument regarder pour peut-être éviter de faire, je ne veux pas parler d'erreur alimentaire, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais pour se dire je prends le produit qui est le plus adapté à mon alimentation.
Oui. Alors peut-être la formation clé, on va dire, c'est qu'il y a plusieurs types de messages sur les emballages. Et les 4 plus importants, on va dire, sont premièrement la déclaration nutritionnelle, donc c'est-à-dire le tableau des valeurs nutritionnelles présentes dans le produit. Mm-hmm.
Alors, on a des exemples là de produits.
Voilà, par exemple ici, c'est le tableau qu'on a ici, qui n'est pas toujours très rigolo à lire, mais sur lequel
on le rajoutera sur la vidéo.
Beaucoup d'informations.
Il y a beaucoup d'informations et souvent c'est écrit petit. Hein.
Voilà. Et donc, s'il y a les informations sur la composition en nutriments et en énergie du produit, donc ça c'est le premier type d'information qui est présent sur les emballages.
D'accord.
Le deuxième type, c'est la liste des ingrédients.
D'accord.
Donc là, c'est écrit en général encore plus petit.
Effectivement, je confirme.
Voilà. Donc c'est là sur.
Je crois que je deviens presbyte. Mais c'est vraiment écrit petit, voilà. Ça reste lisible.
Et la troisième type d'information qui est aussi obligatoire, c'est l'étiquetage des allergènes. Donc là,
d'accord.
C'est au sein de la liste des ingrédients, voire parfois répété à d'autres endroits du pack.
D'accord.
Et ensuite, le dernier type d'information qui existe, mais qui est là facultatif, c'est tout ce qui concerne les allégations nutritionnelles, les allégations de santé.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a bien d'autres choses hein, sur un emballage. Il y a le poids, l'endroit où le produit a été fabriqué, hein, l'usine, ce qui n'est pas forcément l'origine de tous les ingrédients, ce qui est encore quelque chose de...
C'est là où le produit a été fabriqué.
Quelque chose de différent. Et il faut également savoir que tout ce qui est sur un emballage alimentaire, c'est réglementé par une réglementation européenne qui date de 2011.
Oui.
Et qui est maintenant bien en place. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur un emballage, on est obligé de mettre un certain nombre de choses, donc c'est vrai que les informations qu'on vous donne là, normalement, elles sont valables sur tous les types de produits qu'on va acheter en France.
D'accord.
Et pour rebondir sur ce que disait Rachida, c'est pas tout à fait la même chose de lire un emballage en se disant est-ce que ça va être bon pour moi, que de se dire déjà je veux savoir ce qu'il y a dans ce produit. Si ça va être bon pour moi, c'est encore une autre étape, et un produit alimentaire, quel qu'il soit, il ne fait pas un équilibre alimentaire. Il y en a qui sont peut-être plus favorables que d'autres, mais globalement, il n'y a quand même pas sur les emballages ce qui va vous aller vraiment à vous. Il y a un travail à faire en plus sur ce dont on a besoin et qui est un petit peu plus profond. Mais il y a déjà beaucoup de choses.
D'accord. Donc par exemple, si on est sur ce type de produit, qu'est-ce qu'il faudrait regarder initialement ? C'est un biscuit de petit déjeuner. C'est que le matin, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, je sais pas quoi, petit déjeuner le matin.
Eh bien, peut-être la première chose à regarder, c'est effectivement la liste des ingrédients. Parce que
voilà,
ça,
elle est longue.
Et c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est présent sur tous les emballages. Mm-hmm. Bon, il y a quelques exceptions pour certains types d'aliments, mais d'une mm-hmm. manière générale, c'est obligatoire. Donc la première chose intéressante à regarder, c'est la liste des ingrédients.
D'accord.
Et ce qui est très important à savoir et qui est utile pour le consommateur, c'est que en fait, les ingrédients sont listés dans leur ordre d'importance pondérale.
D'accord.
C'est-à-dire que les premiers ingrédients de la liste sont ceux qui sont présents en plus grande quantité.
Mm-hmm.
Et plus on avance dans la liste, plus la quantité devient faible.
D'accord. Là, par exemple, on a majoritairement des céréales, qui est logique pour un biscuit aux céréales.
Le premier ingrédient, ce sont des céréales. Donc
d'accord.
C'est vrai que c'est intéressant par rapport à un biscuit où le premier ingrédient serait quelque chose d'autre que des céréales.
Un biscuit dans lequel le premier ingrédient, c'est le sucre ou la matière grasse, on pressent déjà que ça ne va pas être exactement le même biscuit qu'un biscuit, aux céréales. Après, les biscuits, c'est très varié, donc dans certains cas, effectivement, il n'y a pas que des céréales. Ce qu'on peut dire également, c'est que parfois, on va avoir dans cette liste d'ingrédients des pourcentages. C'est-à-dire que ça va, là, dans le biscuit en question, je pense qu'il n'y a pas le pourcentage de céréales, peut-être dans ce cas-là.
Dans ce cas-là,
il y est. Mais quand alors, il y a le pourcentage quand, effectivement, le produit met en avant l'ingrédient en question. Donc là, effectivement, il parle peut-être de biscuits aux céréales, les céréales complètes.
Il y a
un dessin de céréales.
Ici, il y a un dessin de fruits.
Il y a un dessin de fruits. Donc là, par exemple, ce sont des compotes pommes, ananas, kiwi. Donc si on met en avant pommes, ananas, kiwi, vous devez retrouver le pourcentage de pommes, ananas, kiwi. Donc ici, il y a 70% de pommes, 25% d'ananas et 5% de kiwi. Voilà, donc ça c'est aussi une information qui peut être utile.
Et donc les pourcentages, hein, pour ceux qui sont moins familiers avec ces informations-là, ça correspond à la quantité présente en grammes par 100, de l'ingrédient pour 100 grammes d'aliments au total.
Voilà.
Ou millilitres si on parle de quelque chose
donc là,
liquide.
Pour donner un exemple concret, si vous mangez 100 grammes de ces biscuits voilà, aux pépites de chocolat, eh bien, vous aurez mangé 72,4 grammes de céréales.
Voilà, et
c'est
tout
ça.
À fait.
D'accord, très bien. Des céréales. donc ça, c'est, voilà, c'est par rapport du coup, aux listes d'ingrédients. C'est bien de savoir, parce que je pense que pas mal de personnes ne savent pas que c'est décroissant en fait, dans le listing. Après, par rapport aux valeurs nutritionnelles,
peut-être juste on peut ajouter aussi que dans cette liste d'ingrédients, il y a non seulement les ingrédients, la farine, enfin, les céréales, etc., mais il va également y avoir les additifs, l'ensemble des auxiliaires, enfin, tous les produits, tout ce qui va rentrer dans la composition du produit. Donc, effectivement, on peut aussi regarder cette liste d'ingrédients avec cette idée de voir un petit peu ce qu'il y a comme additifs, qui sont en général au minimum avec le numéro E et puis voilà, donc on ne parle pas des additifs aujourd'hui, mais c'est important de voir que on peut savoir quels sont les additifs présents dans un produit.
Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Véronique, ils peuvent être indiqués, ces additifs, soit par leur nom en entier, soit par un numéro E, mais c'est aussi donc possible que ce soit indiqué que par ce numéro E, et dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu plus difficile pour le consommateur de savoir à quoi cela correspond, sachant qu'aujourd'hui, quand même, avec Internet, ça peut aller assez vite
pour savoir
à quoi ça correspond.
Après,
il y a quand même des mentions obligatoires liées à la présence de certains additifs. Par exemple, lorsqu'il y a de l'aspartame dans un produit, il y a une mention qui doit être rajoutée sur l'emballage pour préciser la présence de phénylalanine en rapport avec la présence d'aspartame par rapport à certaines personnes qui souffrent d'une pathologie particulière qui est la phénylcétonurie. Voilà. Et il y a quelques autres comme ça mentions à rajouter en fonction des ingrédients, de certains ingrédients ou de certains additifs qui vont être présents dans un aliment.
Et là, du coup, tu parlais d'allergènes tout à l'heure, Aurélie. Là, peut contenir œufs, fruits à coque, sésame. C'est le cas de ça, ce sont les allergènes.
Alors, en ce qui concerne les allergènes, le règlement de 2011 dont Véronique parlait tout à l'heure rend obligatoire l'étiquetage des allergènes pour tous les produits emballés et non pré-emballés d'ailleurs aussi. Et donc, cette information-là intervient dans la liste des ingrédients en utilisant une typologie spécifique, ce marquage en gras par exemple, du soulignement, ou tout ce qui permettrait en fait de mettre en avant l'allergène. Donc dans cet exemple-là, on a tous les allergènes qui sont en gras. Donc vous voyez,
gras,
avoine, seigle, blé, orge, soja, blé. Et ensuite, les gens rajoutent cette phrase « peut contenir
des traces de qu'on voit souvent effectivement.
Alors, c'est effectivement sans doute un problème pour les gens qui sont allergiques, parce que effectivement pour diminuer leur responsabilité, les industriels, dans le doute, si effectivement sur les lignes un jour on va utiliser des cacahuètes par exemple, même si dans ce produit-là il n'y en a pas, par prudence ils l'ajoutent, alors qu'il y a beaucoup de chances qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas 100% sûr. Et
c'est
donc
pour
ça,
se protéger eux.
Et pour les gens qui sont vraiment allergiques, c'est vrai que c'est une vraie.
Parce qu'on les voit très souvent ces messages, finalement, donc ça les limite énormément.
Et il n'y a pas de limite minimale réglementaire pour obliger, pour lier à la présence de ces mentions.
D'accord.
Sauf dans le cas des sulfites.
Une autre chose importante aussi, c'est que bien sûr, il n'y a pas tous les allergènes. Il y a cette obligation de marquer en gras ou de souligner dans la liste des ingrédients les allergènes. C'est réservé à ce qu'on appelle des allergènes majeurs, qui sont ceux qu'on va retrouver le plus souvent, qui créent le plus souvent de problèmes. Mais on sait bien que il y a énormément de choses qui peuvent être allergisantes en fonction des personnes. Donc voilà, ça dédouane pas quelqu'un qui est allergique, mais en général, malheureusement, ils le savent, de bien regarder les listes d'ingrédients.
Souvent, c'est les fruits à coque qui reviennent souvent. Il me semble que c'est aussi peut-être le gluten, non?
Il y en a 14, en fait.
Mais il n'y a pas, par exemple, la pomme. Et on sait qu'il y a des gens
qui sont allergiques à la pomme.
Des gens
allergiques à la banane.
Là, pour le coup, ça n'est pas, parce que finalement, ça va à ce moment-là, tout serait...
Mais en fait, tout serait allergisant, je pense. Potentiellement, on peut être allergique à tout.
Par contre, la présence de pommes pour les gens qui sont allergiques à la pomme sera indiquée au sein de la liste des ingrédients.
D'accord.
Même si cela ne figure pas en gras dans ce cas-là, puisque ce n'est pas un allergène majeur.
D'accord. Ok. Je vous propose de passer à la lecture du tableau des informations nutritionnelles. Là aussi, pareil, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a des informations pareil qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatives pour l'industriel. Il y a l'énergie déjà, je crois.
Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez récent, l'obligation de présence du tableau nutritionnel sur tous les produits pré-emballés. D'accord. Ça a été mis en place avec le règlement de 2011, mais il y a eu une période de 5 ans de transition.
D'adaptation, on va dire.
Donc, c'est obligatoire depuis novembre 2016.
Donc, c'est très récent. Ouais.
Ça fait un an et demi maintenant. À peu près. Donc, ce qui est obligatoire, c'est l'étiquetage de l'énergie, des protéines, des glucides, des sucres, des lipides, des graisses saturées et du sel.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est vraiment le minimum. Hein. L'énergie, donc, ce sont les calories. Après, on peut rajouter, l'industriel peut rajouter un certain nombre d'autres précisions sur certaines vitamines, des minéraux, les fibres alimentaires. Mais ça n'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, il y a un certain nombre de... la liste de ce qui est possible est une liste finie. C'est-à-dire, si par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de sucre ajouté, mais en fait, la réglementation est faite de telle façon qu'un industriel ne peut pas mettre dans le tableau alimentaire l'indication précise de la quantité de sucre ajouté, parce que la réglementation ne le prévoit pas.
D'accord.
La réglementation pourra évoluer, mais pour l'instant, ça n'est pas parce que l'industriel ne veut pas le mettre, c'est qu'aujourd'hui, sensu stricto, il n'a pas vraiment le droit de le mettre. Alors après, il y a d'autres façons de l'indiquer. Hein. Sur des emballages de yaourt, par exemple, aujourd'hui, on voit, même si ça n'est pas du tout obligatoire, le pourcentage de sucre qui est ajouté.
Qui est rajouté.
Dans la liste des ingrédients.
On le voit dans la liste des ingrédients, mais pas dans le tableau nutritionnel.
Par exemple, là, j'ai 17 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. C'est-à-dire que c'est à la fois éventuellement des sucres ajoutés, plus les sucres contenus naturellement dans les céréales.
Tout à fait.
Et donc l'information sur les sucres ajoutés, on peut aussi la voir grâce aux allégations dont on parlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il existe une allégation nutritionnelle qui est l'allégation sans sucre ajouté.
Qui est très utilisée parce qu'en ce moment on est dans la mode du faites attention au sucre, voilà. Donc on la voit beaucoup effectivement et c'est souvent écrit très
gros. On la voit là où c'est vrai, hein, parce qu'on peut pas la mettre n'importe où.
Ah bien sûr, où c'est vrai, il faut que ce soit bien sûr respecté.
Qui en général assorti de la mention contient des sucres naturellement présents pour pas induire en erreur le consommateur sur le fait que le produit ne contiendrait pas du tout de sucre. parce que ce n'est pas la même chose.
Et oui, parce que là, c'est sans sucre ajouté, et pourtant, il y a quand même 11 grammes de sucre, 11 grammes de produits.
Seulement les sucres qui viennent des fruits mis en œuvre dans la préparation de la compote.
C'est des sucres particuliers qui sont dosés, du coup, le sucre, est-ce que c'est le saccharose uniquement?
Alors, la définition des sucres, réglementairement parlant, c'est tout ce qu'on appelle les mono- et les disaccharides, donc c'est en gros le sucre de table, qu'on appelle le saccharose, mais il peut y avoir aussi d'autres matières qui sont utilisées pour sucre, ça peut être du fructose, ça peut être des sirops de glucose fructose, ça peut être aussi éventuellement du dextrose, voilà, certains autres sucres. Sont également considérés comme sucre ajouté le miel, si on l'ajoute si on l'utilise pour sucrer, le miel est considéré comme un sucre ajouté, de même que les concentrés de fruits sont considérés aussi comme des sucres ajoutés. Et puis il y a beaucoup de débats, mais là c'est peut-être un petit peu trop spécialisé sur la notion de sucre libre, donc là on rentre dans des choses qui deviennent un peu plus compliquées, qui sont loin d'être clarifiées, d'être consensuelles dans la communauté des nutritionnistes sur la façon vraiment de les mesurer, de les évaluer.
Mais en fait, finalement, de voir l'absorption après en termes.
Le sucre, de toute façon, qu'il soit ajouté ou qu'il ne soit pas ajouté, c'est le même, donc il a le même devenir dans l'organisme. Là, il n'y a aucune différence. Par contre, on estime en santé publique qu'effectivement, on peut, dans un produit alimentaire, on peut plus facilement jouer sur la quantité de sucre ajouté. Si vous faites un gâteau et si la recette dit 100 grammes, vous pouvez de vous-même dire que vous n'allez mettre que 90 grammes. Si par contre vous mettez des fruits dans votre gâteau, vous n'allez pas enlever le sucre des fruits, il est dedans, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc c'est un peu cette démarche-là qui justifie de considérer un peu différemment les sucres totaux des sucres ajoutés. D'accord. Mais ça pose des problèmes ensuite quand il s'agit sur des produits un petit peu complexes, justement ça pour savoir finalement qu'est-ce qui est ajouté, qu'est-ce qui est naturellement présent.
D'accord. Après, bon, on a d'autres informations, hein. On a les matières grasses. Donc, c'est uniquement les acides gras saturés qui sont obligatoires.
Les graisses totales, les graisses lipides totaux, voilà. Et ensuite, en termes de ce qui doit être précisé comme type de matière grasse, oui, les seuls obligatoires sont les acides gras saturés. Mais on peut rajouter de l'information sur les acides gras insaturés totaux, les mono-insaturés, les polyinsaturés et puis les oméga-3. D'accord. Les fameux oméga-3.
Il y a une raison, justement, d'avoir uniquement mis les saturés
La raison principale, c'est quand même de ne pas avoir une obligation d'avoir une liste démesurée. Parce que si on commence à mettre effectivement tous les acides gras, plus toutes les vitamines, plus tous les minéraux, ça devient, déjà, ce n'est pas très facile à lire. Ça devient vraiment compliqué. Ouais. Et puis également, il y a en général plusieurs colonnes sur ce tableau.
Et donc, ce qu'il faut savoir et ce qui est important aussi pour le consommateur, c'est que la seule chose qui est obligatoire, c'est l'information nutritionnelle exprimée par 100 grammes ou par 100 grammes ou par 100 millilitres de produit. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire d'un point de vue réglementaire. Mmh. Après, la quantité en grammes de glucides par 100 grammes de produits, par exemple. Mmh. Et après, ce qui est optionnel, donc l'industriel peut rajouter de manière facultative, c'est l'expression de cette quantité par portion de produit.
D'accord, oui.
Donc, sous réserve que la portion soit appropriée et représentative de ce qui peut être consommé.
Là, c'est un biscuit, apparemment.
Oui, là, donc, on partit sur une portion équivalente à un biscuit. Et donc, la deuxième chose qui est aussi facultative, c'est d'exprimer la quantité de nutriments présents en pourcentage des apports de référence, qui sont fixés également réglementairement, dans le règlement de 2011 dont on parlait tout à l'heure, et qui, grosso modo, correspondent aux apports nutritionnels qui vont être, entre guillemets, recommandés pour un adulte consommant 2000 kcal par jour.
D'accord.
Donc, dans cet exemple-là, je pense qu'on peut dire que l'énergie qui est apportée par un biscuit, ça correspond à 3% de l'énergie totale de la journée.
Voilà. D'accord.
Et on a donc ces pourcentages qui sont présents sur toute cette colonne, mais encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut aider le consommateur. Si effectivement on voit qu'une portion de tel produit va apporter 50% du sodium, la quantité de sodium qu'il faudrait pas excéder, mais on se dit qu'on a déjà pris pas mal et qu'il va quand même falloir essayer de pas prendre quelque chose de trop salé à côté. Voilà. Dans ce cadre-là, c'est sans doute peut-être ça qui est le plus
voilà, qui est le plus intéressant. Ceci posé, c'est quand même pas simple.
Oui, c'est pas simple, parce que après,
on ne trimballe pas avec sa calculette, et il vaut mieux ne pas faire ses courses avec sa
calculette. Est-ce qu'au final, un produit qui va nous apporter 50% de nos apports journaliers en sel, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, je vais peut-être pas le prendre, plutôt que calculer. Tout est après, voilà, tout est question de choix après, j'imagine aussi. Hein.
Et après, donc, si le consommateur veut pouvoir comparer, comme là on est en train de parler de ce sujet-là, plusieurs produits entre eux quand il fait ses courses, eh bien c'est vrai que d'une manière obligatoire, comme la seule information qui doit figurer sur les emballages, c'est l'expression par 100 grammes, ben, il faut qu'il compare les valeurs par 100 grammes de produits, ce qui peut être un peu difficile, un peu long en tout cas.
Ça peut être long, oui.
Voilà.
Ça peut être long. Oui, parce qu'effectivement, chaque portion est finalement... spécifique, on va dire, à chaque produit. Ouais. Donc, il faut vraiment se baser sur les mêmes références.
Et il faut savoir, pour les gens qui voyagent, que dans d'autres endroits du monde, ces règles ne sont pas les mêmes, et en particulier aux États-Unis et au Canada. Ce qui est obligatoire, c'est l'étiquetage nutritionnel par portion, et non pas par 100 grammes. Et donc là, ça rend encore les choses un peu plus compliquées pour les consommateurs, pour comparer les produits entre eux, puisque les portions peuvent être différentes. Après, le législateur américain considère que c'est plus parlant de parler par portion que par 100 grammes pour le consommateur, ce qui est aussi quelque chose qui peut se défendre d'un point de vue...
Après, une portion américaine, une portion française, enfin...
Alors, effectivement, la question de la portion, elle est importante, parce que il y a des choses qui sont très bien précisées sur ce qui doit être présent sur le tableau, autant la portion, elle est laissée au libre arbitre de l'industriel, et autant certaines fois, c'est des portions... Bon, là, quand on a un yaourt, la portion, c'est le yaourt, c'est 125 grammes, et ça pose pas de problème. Là,
comme la compote, c'est la gourde, c'est 120 grammes.
C'est la gourde, donc ça c'est simple. Par contre, pour des céréales du petit déjeuner, on sait très bien qu'une portion, elle va varier entre un enfant et un adolescent. Et là aussi, un biscuit, est-ce que c'est vraiment la portion,
c'est des sachets de 4 biscuits.
La dose, c'est des sachets de 3 biscuits, je crois, 3 ou 4 biscuits.
C'est même 4 biscuits, je crois,
ou 4 biscuits, donc effectivement, c'est un peu... Ça se discute, mais c'est extrêmement difficile de déterminer des portions
qui soient
appropriées, surtout qui soient appropriées à tout le monde. Donc,
Alors après, en plus de cette information obligatoire, donc qui est le tableau d'information de déclaration nutritionnelle, il y a des possibilités pour les industriels de répéter certaines informations en face avant, donc sur le devant du produit. Cette répétition est facultative, mais c'est quelque chose qui est possible et qui est utilisé.
Actuellement, justement, on essaye de simplifier tout ça pour que le consommateur ait finalement tout de suite l'information de savoir si c'est un produit, on va dire,
plus ou moins recommandable.
Plus ou moins recommandable. Voilà. Je trouve que le terme est très bien utilisé. En étant positif, on va rester positif dans les termes. Je pense entre autres au Nutri-Score. Je pense que c'est intéressant d'en parler et peut-être d'informer, parce que ça arrive actuellement sur les emballages.
Chose qui va être maintenant de plus en plus présent sur les produits. C'est pas vraiment le seul système, mais ça va être vraiment le principal, et effectivement ça va permettre des comparaisons entre différents produits. Donc c'est un système en fait qui franchit un pas par rapport au tableau nutritionnel, qui est en fait quelque chose d'objectif avec les quantités et rien de plus. On va donner en fait une note au produit entre A, B, C, D, E. A, ça va être le mieux disant sur le plan nutritionnel, et E, le moins bien disant sur le plan nutritionnel. Et derrière cette lettre, il y a en fait tout un calcul assez compliqué qui prend en compte plusieurs caractéristiques du produit. Par exemple, la teneur en fibres, le pourcentage de fruits et légumes dans des aspects qu'on va dire plus favorables, et puis des nutriments qui sont plutôt à limiter, les matières grasses saturées, le sodium, le sucre, etc. Donc il existe un site qui explique exactement comment on peut calculer ça, et d'ailleurs vous pouvez le calculer vous-même, puisqu'il y a un site qui donne un petit outil pour le faire si vous voulez connaître la note Nutri-Score. Et donc finalement, on va avoir sur les produits quelque chose qui assez rapidement va permettre de dire ce produit produit, oui, il est mieux ou il est moins bien. L'intérêt, bien sûr, c'est pas de différencier entre une pomme et une barre chocolatée, parce que ça, tout le monde peut à peu près le faire. C'est plutôt au sein de quelque chose qui est un peu compliqué, par exemple un plat cuisiné ou voilà,
des céréales du petit déjeuner,
etc. Il y a effectivement une variabilité qui peut être assez importante et ça peut effectivement faciliter beaucoup le choix du consommateur qui va plutôt sans doute préférer un produit A ou B à un produit D ou voilà. Ensuite, effectivement, tous les produits à base de chocolat, ils vont être D ou E. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre de produits à base de chocolat et se priver de produits à base de chocolat, mais peut-être juste voilà, savoir que les produits à base de chocolat, c'est pas forcément...
Il faut les consommer avec modération.
Avec modération, ce qui n'empêche pas le plaisir.
Nous, on n'interdit rien. On dit que voilà, il faut manger de tout et varié. Après, moi, je conseille quand même de manger des produits frais et variés, plus que voilà, plutôt que varier des tablettes de chocolat. Enfin, en tout cas, c'est des tablettes de chocolat très riches en sucre ou en autre matière grasse. Et du coup, moi, je trouve ça très bien pour faciliter, voilà, parce qu'on n'a pas le temps de lire toutes ces étiquettes, finalement, c'est des informations qui sont obligatoires, mais qui sont quand même assez denses à lire, et déjà, on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps en course, alors si on doit en plus lire tous les emballages, on peut passer, effectivement, la matinée.
Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, ce logo Nutri-Score, ou aucun logo n'est obligatoire.
Ouais.
Hein, donc, ça va être mis sur... ce sont les industriels qui vont choisir s'ils le mettent ou pas. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui vont le mettre. C'est un petit peu long à se mettre en place pour des questions de packaging, etc., de calcul aussi. Mais c'est quand même... C'est bien encadré, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura le logo Nutri-Score, on peut être sûr que le calcul, il a été bien fait. Hein, ça sera
il faut qu'il soit validé, contrôlé.
Il sera, voilà, en tout cas, les gens s'engagent à le faire d'une certaine façon et ils vont pas s'amuser à ne pas le faire. Alors ensuite, effectivement, la question, c'est de savoir qui va le mettre en place. Et puis surtout, mais je pense qu'il y a pas mal d'industriels qui se sont engagés à jouer le jeu. C'est-à-dire que si effectivement les gens ne le mettent que sur les A et B, c'est un peu moins intéressant que si je joue le jeu sur toute la gamme. Voilà. Donc je pense que voilà. Pas mal d'industriels vont, on dit que, alors peut-être pas sur tous les produits qu'ils vendent, mais sur quand ils choisissent par exemple d'étiqueter les yaourts, ils étiqueteront tous les yaourts de la même marque.
D'accord.
Et aussi les autorités de santé publique en France vont lancer une campagne d'information pour le consommateur, pour les éduquer à la compréhension de ce logo. Ça devrait démarrer en mai, enfin en printemps de cette année, c'était prévu.
D'accord. Quand tu dis éduquer le consommateur, c'est à quel niveau c'est,
Vraiment juste pour leur expliquer le principe, un petit peu ce que Véronique vient d'expliquer du Nutri-Score, comment ce qu'il faut, on peut le comprendre.
D'accord.
Et comment est-ce qu'il peut être utile, voilà.
Donc ça va être une communication qui va se faire au travers des internet.
Moi j'ai compris que c'était grand public, donc il y aurait des choses à la télé a priori.
D'accord.
Mais bon, ça j'ai... Juste
on vous tiendra informé.
Sur le site santé publique.
Je ne suis pas sûre que ça n'a pris un peu de retard, plutôt à la rentrée. Hein.
D'accord.
Mais, mais là, on est déjà presque.
Oui, puis il y a les ponts.
De toute façon, on prend toujours retard.
D'accord. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour des informations principales qui sont présentes sur les emballages.
Oui.
Alors, je pense que si, le dernier point qui est important, c'est en fait tout ce qu'on avait appelé les allégations, c'est-à-dire des informations qui sont apportées par les industriels pour mettre en avant des qualités du produit. Donc, ça peut être des allégations nutritionnelles qui sont relatives au contenu du produit. D'accord. dans certains nutriments ou des allégations santé.
Voilà, et donc en exemple, sur ce produit-là, il y a la présence d'une allégation nutritionnelle qui porte sur une moindre quantité de sucre présent. Donc ici, l'allégation, c'est 30% de sucre en tout le reste. C'est réglementé, il faut respecter certaines conditions pour pouvoir utiliser ce type d'allégation. Mais c'est un exemple d'allégation nutritionnelle qui peut
être
utilisée.
Parce que c'est 30% moins de sucre, mais par rapport à quoi?
Par rapport au produit équivalent du marché.
Voilà. D'accord.
Dans ce cas, cette allégation-là, c'est la règle qui doit être utilisée. Mais après, il y a aussi des allégations sur, comme on disait tout à l'heure, sans sucre ajouté ou...
Source de fibres. Source de vitamines, etc.
Sur celui-ci aussi, du coup, on a moins 30% de sucre. Donc, c'est quand même une allégation qui revient souvent.
C'est une allégation qui revient souvent, mais c'est une allégation qui est assez difficile à mettre en place. place. D'un point de vue technique, c'est difficile. Là, c'est un biscuit qui se compare à d'autres biscuits secs, à peu près, qui ressemblent du marché. Donc, il doit se comparer à quelque chose qui est significatif, hein, pas juste à deux biscuits pris sur le marché. Il faut que ça soit significatif. Et technologiquement, ce n'est pas facile d'enlever 30% d'un biscuit, et encore moins d'un jus de fruits.
Ça, là, c'est très récent.
Ça, c'est, voilà. Mais là, on y est arrivé grâce à l'eau de coco, qui a un statut de jus de fruits. Voilà.
Ah d'accord, du coup, c'est qu'ils diluent plus, finalement, grâce... Ils ne vont pas le retirer chimiquement.
Il n'y a pas de sucre ajouté dans un jus de fruits, donc forcément, on ne peut pas le retirer. Donc oui. Là, on joue...
En rajoutant un ingrédient qui est moins sucré, là, l'eau de coco. D'accord.
Et donc, si on a d'autres exemples, riches en vitamine B1 et vitamine E, ou source de fibres.
Voilà, il y a une liste finie d'allégations nutritionnelles, hein, donc on ne peut pas inventer n'importe quoi. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a le droit de dire sous réserve que le produit satisfasse à ça, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc ça, sur les allégations nutritionnelles, sur le contenu en nutriments du produit. Et ensuite, il y a toute une autre série d'allégations qui sont les allégations appelées fonctionnelles, ou allégations de santé, qui se réfèrent à ce que le produit... aux bénéfices santé que le produit peut apporter.
Et donc là, par exemple, dans ce produit-là, on a une allégation santé qui porte sur la moindre réponse glycémique qui va être produite par la consommation de ce type de biscuit par rapport à d'autres biscuits. Et donc ça, c'est lié à la présence d'amidons lentement digestibles dans ce produit-là, qui seront présentes en moins grande quantité dans d'autres types de biscuits. Et donc cela permet en fait d'avoir une augmentation de la concentration en glucose après le repas qui est moins importante qu'un produit classique.
D'accord.
C'est en rapport avec la notion de glucides lents.
Et donc alors, ça a été testé.
Donc juste sur deux points, il y a aussi des choses. Ça paraît un peu compliqué. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, lorsque un produit contient du calcium, il peut faire état du rôle favorable du calcium sur la santé osseuse, par exemple. Donc des choses qui sont un peu plus simples à comprendre. Et donc ce qui est effectivement important, et que je pense assez peu de personnes savent en fait, c'est que cette réglementation est très très étroitement contrôlée. C'est-à-dire que depuis maintenant 2006 et dans la pratique depuis 2012, toutes les allégations, donc toutes les promesses santé et nutrition d'ailleurs, mais qui sont faites sur les produits alimentaires, elles doivent absolument avoir été autorisées avant d'être mise sur le paquet. Et cette autorisation, elle n'est possible que s'il y a eu un dossier scientifique déposé. D'accord. Un dossier qui est déposé au niveau européen, qui est évalué par des experts européens et qui est évalué de manière vraiment sévère, hein. Donc là, on en sait quelque chose. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment que la science soit de haut niveau. Donc effectivement, calcium et os, on sait bien qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a beaucoup d'autres produits qui n'ont pas le niveau de preuve qui est jugé nécessaire, et dans ce cas-là, l'allégation n'est pas autorisée. Donc en fait, effectivement, quand il y a une allégation sur un produit, scientifiquement, elle a été testée
chez l'homme
avec des études chez l'homme faites chez l'homme dans des conditions qui sont celles qui sont voisines de celles qui sont celles de la personne qui va consommer le produit. Il y a juste un bémol là-dessus qui peut quand même expliquer pourquoi de temps en temps les gens ont l'impression que c'est pas tout à fait le cas. C'est que pour des raisons réglementaires un petit peu compliquées, tout ce qu'on appelle les botanicals, c'est-à-dire les produits à base de plantes, mais en fait ont encore le droit de faire des allégations qui, elles, n'ont pas été vérifiées. Alors, ça ne concerne en gros, on va dire à 99%, que les produits qui sont des compléments alimentaires, sur lesquels il y a des allégations qui sont un petit peu des allégations traditionnelles, et pour lesquels, enfin, qui sont jugés traditionnels, donc qui sont encore autorisés parce qu'en fait on ne sait pas très bien comment les évaluer. Et donc c'est vrai que quand on va dans un rayon de compléments alimentaires, on a l'impression qu'on a le droit de dire des tas de choses qui sont des choses très forte vis-à-vis de la santé.
Oui, ventre plat.
Ventre plat, brûlé graisse, système immunitaire. Et sur Internet, on voit des choses qui sont encore bien pires.
Antivieillissement.
Et du coup, on a parfois l'impression que ben, finalement, la réglementation est très, très laxiste. Sur les produits alimentaires tels qu'on peut les acheter, honnêtement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ça ne concernera que les tisanes.
Ça va, oui, voilà. Éventuellement, les tisanes. Voilà, parce que voilà, la verveine, même si on a tous le sentiment que la verveine, c'est bien pour faire dormir, ben, en fait, quand on regarde les études, c'est pas si clair que ça, parce que c'est justement quelque chose qui est très traditionnel et qui n'a pas été très, très étudié. Et puis, voilà, peut-être c'est pas vrai en fait. Mais
prenez de la camomille,
c'est pareil pour la camomille.
C'est pareil pour la camomille. Voilà. Mais oui, c'est vrai que quand on va dans le rayon complément alimentaire, on a presque l'impression qu'on est presque dans le médicament, dans quelque chose qui va soigner. Et on a tendance à penser qu'effectivement, au niveau réglementation, c'est très strict. Et apparemment, non.
Ben, en fait, ça dépend des composés qui sont dedans. Hein. Si c'est un extrait végétal, alors je vous passe les détails réglementaires, mais un extrait végétal qui avait fait des dépôts de dossiers en 2006, donc il y a déjà plus de 10 ans, mais finalement ces trucs n'ont toujours pas été évalués pour des tas de raisons compliquées. Et donc ils sont dans une espèce de no man's land juridique qui fait qu'ils ont quand même ils ont le droit sans l'avoir tout en l'ayant. Voilà.
Mais ça devrait être à terme clarifié.
À terme, ça finira par être clarifié, mais ça fait un moment que.
Après, oui, prouver ces allégations sur l'être humain, il y en a qui sont compliquées à prouver, genre anti-âge. C'est comme la cosmétique, hein. Et en travaillant longtemps dans la cosmétique, voilà, ça dépend
de ce qu'on utilise. C'est difficile. Alors, ensuite, on peut par exemple prouver la possibilité d'être antioxydant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer et qui
vitro,
peut être prouvé
dans des tubes.
In vitro, même
alors sur la sérum.
Il existe des marqueurs. Par exemple, la vitamine C, c'est reconnu comme étant un antioxydant parce que la consommation de vitamine C à des doses normales. Permet de diminuer l'oxydation des lipoprotéines, par exemple.
D'accord.
Et ça, c'est reconnu comme étant...
C'est mesurable dans le sang.
Donc ça, on peut le faire.
C'est accessible facilement.
Facilement, plus ou moins.
Avec
par
des
exemple, les polyphénols de l'huile d'olive, dans les huiles d'olive peu raffinées, on a des polyphénols qui sont des molécules d'origine végétale. On a des là, une autorisation de parler du rôle antioxydant. Mais aujourd'hui, passer d'antioxydant à anti-vieillissement pour des aliments, non. Non.
D'accord.
Pas le droit de ça.
D'accord.
Le cran est jugé trop important par les scientifiques.
Et donc, pour rendre compte du niveau de sévérité de ces évaluations scientifiques réalisées au niveau européen, il faut savoir que seulement 11% des allégations qui ont été déposées, donc à la date d'aujourd'hui, ont été autorisées.
D'accord. Je crois qu'on a fait le tour par rapport aux emballages, à la lecture des étiquettes. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.
Merci
à vous. À très bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.